Nous allons poursuivre avec la chronique Jouons collectif de Vincent Calame, bénévole à l'April. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, tu souhaites nous parler de la clause pas d'usage commercial de certaines licences Creative Commons.
Oui, tout à fait. Pour cette chronique, je vais un peu marcher sur les plates-bandes de Jean-Christophe Becquet, qui tient ici même une chronique Pépite Lite où il présente des ressources justement sous licence libre. Et dans sa toute première chronique, que l'on peut télécharger sur le site de l'April, il évoquait le cas d'une vidéo d'une conférence qui était sous licence Creative Commons, mais qu'il ne pouvait pas réutiliser dans une formation parce qu'il n'avait pas cette clause, et qu'est-ce qu'elle avait justement, cette clause usage non commercial. Et donc, dans sa chronique, il parle de l'échange qu'il a eu avec l'auteur pour lui faire retirer cette clause. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui.
Alors, clause, licence, Creative Commons, allez, trois mots de jargon d'un coup, explique-nous ça.
Voilà, alors, les habitués connaissent ça par cœur, mais il faut préciser pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, la licence, c'est un document juridique qui indique les conditions d'utilisation d'un logiciel ou de toute autre production. Je parle sous contrôle, hein. Vous savez, c'est souvent ce long texte que vous faites défiler très rapidement sans lire pour activer le bouton « j'accepte ». Vous vous posez sans poser de questions. Il y a donc de très nombreuses licences différentes. Et dans le cas des logiciels libres, on dit qu'un logiciel est libre quand l'auteur lui a attaché une licence qui assure à l'utilisateur donc quatre libertés, hein, la liberté d'utilisation, la liberté d'examen du code, de modification du code et de distribution du code modifié. Alors, la plus célèbre des licences libres, et la première, c'est la GNU GPL. Et ces licences, qui sont très utilisées dans le monde du logiciel libre, ont inspiré d'autres licences plus adaptées à d'autres productions intellectuelles, comme les textes et les vidéos. Et une des plus connues, c'est la Creative Commons.
Attention Vincent, attention, on ne dit pas la licence Creative Commons, mais les licences Creative Commons.
Voilà, parce que nous approchons du nœud du problème. En fait, le système des Creative Commons, c'est une famille de licences. Et quand vous avez votre document, vous êtes l'auteur, vous voulez le mettre sous licence Creative Commons, vous choisissez un certain nombre de clauses parmi celles disponibles. Donc il y a par exemple la clause attribution qui demande ce que l'auteur initial soit bien cité, la clause partage à l'identique qui impose de distribuer les modifications sous les mêmes conditions, et la clause NC pour non commercial qui interdit l'usage commercial.
Alors, donc, nous y sommes. Alors, pourquoi pose-t-elle problème cette clause pas d'usage commercial?
Alors, parce que une licence Creative Commons avec cette clause est une licence non libre. C'est, en effet, la première liberté des licences libres, c'est celle de la liberté d'utilisation, donc y compris dans un usage commercial. Et donc, avec une clause non commerciale, vous limitez la liberté de l'utilisateur. Alors, le problème, en fait, de cette clause, c'est que elle apparaît comme assez naturelle, même très naturelle, en particulier pour une association qui, en France, est régie par la fameuse loi de 1901.
Donc la loi qui parle d'association à but non lucratif.
Exactement. Et pour les associations, il y a une légitime fierté à faire partie d'un secteur non marchand. Du coup, je pense qu'elles ont le sentiment que la clause NC est faite pour elles. Donc la difficulté du côté du militant du libre, c'est de montrer en quoi cette clause est un frein à la diffusion de leur production. Donc un exemple, c'est une photo peut pas être mise dans une production en papier, même si cette production était vendue à un prix coûtant, c'est-à-dire juste au prix de l'impression. Je pense que pour les associations aussi, cette clause rassure, parce que derrière ça, il y a quelqu'un, la crainte que quelqu'un profite du travail, qu'il se fasse de l'argent dans le dos de l'association.
Oui, mais ça, c'est un fantasme, en fait.
Alors, je pense que oui, dans le sens où moi, j'ai pas d'exemple concret d'un vol de données, d'informations ou de quelque chose qui ferait de l'argent là-dessus. Mais je pense que il n'y a pas d'exemple concret, mais en revanche, il y a un environnement dont il faut être conscient quand on est aussi militant du libre, dans le sens où le monde associatif est en ce moment soumis à une très forte pression de rentabilité. Il y a des suppressions de subventions, il y a des exigences de redevabilité excessive, de rendre des comptes, des évaluations comptables et très tatillonne et très financière, il faut faire du chiffre. Et il y a également ce phénomène dans certains secteurs qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, comme l'aide à la personne, à l'insertion, etc., d'arriver de nouveaux acteurs, adossés souvent à des grands groupes de services, qui les mettent en concurrence et qui leur mettent une pression grâce, entre guillemets, à l'efficacité du monde dans l'entreprise, en fait aussi au fait qu'ils sont adossés à des groupes capitalistiques qui ont des moyens importants. Donc, quand vous êtes un militant de l'économie sociale et solidaire, quand on lui parle d'entrepreneur social ou voire même d'obligation à impact social, c'est la dernière trouvaille venue du Royaume-Uni qui en fait lie les obligations à le financement du monde associatif. En général, quand vous lui parlez de ça, ça lui donne des boutons. Hein. C'est parce que ça l'attaque aussi dans son fondement, enfin dans sa raison d'être. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un terrain sensible, la question du non commercial. Donc je pense qu'il faut marcher un peu sur des œufs quand on aborde cette question avec une association.
Alors, comment il faut procéder selon toi ?
Alors, moi je pense que le mieux est de procéder en deux temps. Je ne pense pas être le seul à avoir cette expérience. Le premier sens, c'est déjà de convaincre l'association de l'intérêt d'avoir une licence. Parce que tout simplement, beaucoup d'associations ont leur document qui est comme ça, sans indication. Donc, quand il n'y a aucune licence, ça dépend juste du droit d'auteur. Et donc, il n'y a rien d'autorisé. Et donc, déjà, les convaincre d'indiquer une licence. Et dans ce premier temps, la clause non commerciale, parfois, ça peut rassurer. Ça peut rassurer l'association qui limite un petit peu cette diffusion libre auquel elle n'était pas forcément préparée. Et je pense que c'est dans un second temps qu'on peut, à partir d'exemples concrets, montrer en quoi cette clause non commerciale constitue un frein et n'est pas très utile et finalement pourrait être supprimée. Bon, par exemple, si l'association gère des données géographiques, par exemple géolocalisées, la clause non commerciale va interdire de les réutiliser dans une base de données comme OpenStreetMap, qui est la grande base de données géographiques. Donc, c'est une valorisation en moins des données pour l'association et c'est dommage. Dans sa chronique, Jean-Christophe avait procédé comme suit. Il avait d'abord félicité l'auteur parce qu'il avait déjà fait l'effort de mettre sous licence Creative Commons avec clause non commerciale. Et ensuite, une fois qu'il avait félicité, il lui a montré l'intérêt qu'il avait à abandonner cette clause pour permettre une meilleure valorisation, une meilleure diffusion du contenu et de la production. Parce qu'en final, c'est ça le but, c'est aussi de diffuser au maximum sa production.
Tout à fait. Donc, il ne faut pas y aller comme un bourrin, façon agressive. Il faut tenir compte du contexte de la personne et effectivement commencer par féliciter la démarche parce que la personne a entamé en choisissant une licence de la gamme Creative Commons une démarche de partage. Et il faut dire aussi que Creative Commons n'explique pas trop au fait qu'on en choisit les licences, les impacts potentiels. Bon, évidemment, pas d'usage commercial, il peut y avoir différentes interprétations et je trouve qu'il y a peut-être un manque d'explication. Et donc, il faut y aller en l'expliquant et puis en positivant des part, en saluant le travail et puis en respectant le choix final de la personne, au fond.
Oui, complètement. Puis dire que finalement, une des clauses les plus importantes, c'est la clause d'attribution, qui est de dire, oui, c'est important que votre travail soit... on garde la source de qui l'a produit initialement. Je pense que d'ailleurs, c'est des meilleures protections contre le vol, parce que quelqu'un ne va pas s'amuser à faire, entre guillemets, de l'argent en indiquant la source et en montrant que sa source, ce n'est pas lui, que c'est une petite association. En termes d'image, ce n'est pas terrible. Donc, le plus important, c'est sans doute cette clause d'attribution et de la faire respecter.
Alors, il y a peut-être aussi la clause, c'est peut-être l'occasion aussi d'expliquer l'importance de la clause de partage à l'identique copyleft. On pourra peut-être en reparler parce que c'est une clause qui permet de protéger beaucoup plus finalement que la clause non commerciale. Puis sur le terme vol, on va rappeler que dans le numérique, il n'y a pas vraiment de vol, hein, parce qu'on ne soustrait pas quelque chose. Voilà, c'est juste un terme de terminologie. La conférence dont tu parles, c'est un faible degré d'originalité. Et donc la chronique de Jean-Christophe Becquet, c'était dans l'émission du 15 janvier 2019. Donc les podcasts sont disponibles sur causecommune.fm et sur april.org. On peut aussi, quand tu parlais des freins, expliquer que par exemple, un frein potentiel, tu as parlé de OpenStreetMap, mais on vient de parler d'OpenFootFacts, expliquer qu'OpenFootFacts, la licence choisie n'est pas une licence, c'est pas une licence Creative Commons parce que c'est spécial BS de données, mais c'est une licence qui autorise la réutilisation commerciale, et que finalement quelque part c'est un commun numérique qu'on développe et qu'effectivement il y a une discussion à avoir avec les personnes pour qu'elles comprennent la démarche et qu'elles fassent leur choix en toute connaissance de cause au final.
Tout à fait.
Écoute, je vais t'appeler Jean-Christophe. Vincent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Non, c'est bon.
Non, mais écoute, merci Vincent, et puis on se voit le mois prochain.